Yeah, Besader, les amis. Tov, Boker Tov, les Koulam. Boker Tov, les Koulam. Et on revient donc dans notre étude de Roth du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Cook. Et nous sommes dans la partie Israël ou Techiato. Piska Zain, si je ne m'abuse. Hein? Piska Zain, c'est-à-dire paragraphe 7. Et c'est la page Kaf Gimel en bas de la page.
Kaf Gimel.
Kaf Gimel en bas de la page. Ok ? Keshem. Ok ? Ouais, c'est bon ? Keshem
Shemakirim.
Pardon ? Shemakirim, exactement. Keshem Shemakirim. Tnaim Aklimim. מסוגלים לבעלי חיים או לצמחים שונים, ויותר מזה תנאים מובדלים לסוגים, הים, היבשה, העפיפה באוויר וההליכה, ומי שמסוגל לאחד מהם, אם יחליף את תפקידו במה שמוזר לו, את נפשו הוא חובל. Alors, de quoi on parle? Lorsque je fusse arrivé en Israël, il y a de cela un petit peu plus de 18 ans.
C'est pas loin, j'avoue. Quand tu fais ça, je crois que c'était 1000 ou 2000 ans.
Ah ben au moins il y a 2000 ans, ouais.
Il y a 2000 ans.
Lorsque je suis arrivé en Israël, le...
Tu parles du qui du Rav Kook ?
Non, moi. Rav Kook, il y a 18 ans, Rav Kook c'est un peu plus. Non, quand je suis arrivé, je sais plus exactement le troisième jour où je suis arrivé à la yeshiva. Enfin, je suis arrivé un jeudi et dimanche matin, donc j'arrive à la yeshiva. Et le Rosh Yeshiva, le Rav Dov Bigon, Shlita, vient nous revoir dans la classe, les petits Français qui viennent d'arriver. Et il nous dit de sortir de la classe et il nous emmène faire un petit tioul dans les rues de Kiryat Moshe. Ok. Et on arrive au bout de 5 minutes dans la cour, vous savez, d'un immeuble. Et il y a plein d'arbres comme ça devant nous. Et il nous amène, alors je ne me rappelle plus du nom de la rue, à chaque fois j'essaye de le retrouver, mais je ne me rappelle plus où c'est. Il nous amène, il y a un cactus là-bas. Et il nous explique, vous savez ce cactus-là, il s'appelle, alors il m'a donné le nom, il nous avait donné le nom scientifique. Non, c'était un cactus mexicain, cactisouk, blikakluklus, je ne sais pas quoi. Et il me dit, vous savez, si vous allez regarder sur l'internet, eh bien vous verrez que ce cactus, normalement, il doit atteindre la taille de au moins 2 mètres de haut et avec plein de largeur. Et là, vous voyez, il fait 70 cm et il est tout petit rikiki. Il dit la main. Il dit parce que ça, c'est un cactus mexicain. Quand il est dans la terre du Mexique, eh bien il arrive à donner le meilleur de lui-même. Et il est... Eh ben, il fait 2 mètres de haut, il est large, il est grand, il est beau. Mais là, il est à Jérusalem, c'est pas sa place. Eh ben, de la même façon, vous, Am Israël, qui avez grandi en France, c'est bien, tu survis. Mais ta place, là où tu peux donner le meilleur de toi-même, c'est ici. Eh bien, nous dit le Rav Kook la chose suivante. De la même façon que nous connaissons dans le monde physique, il y a des conditions météorologiques, des conditions climatiques, voilà, qui permettent à certains animaux de vivre mieux à certains endroits et à certaines plantes de mieux se développer à certains endroits. Tu prends un ours polaire, tu le mets aux eaux de Jérusalem, il va pas bien. Oui.
Je connais quelqu'un qui habite à Strasbourg, il a amené un plant de la Mirabelle.
Mirabelle, tout petit, il a planté, il lui a donné des grosses prunes à la place, parce que la Mirabelle ça vient de Metz, ça vient pas de Strasbourg, mais à Strasbourg on fait de la poire, on fait pas de la Mirabelle, la Mirabelle c'est de chez nous, non, monsieur, la Mirabelle c'est de Lorraine.
Oui, mais enfin...
Oui, monsieur. Moi, j'ai grandi à Metz, il y avait tous les ans la fête de la Mirabelle. Et on a élisé la reine de la Mirabelle.
Mais nous aussi, on a quand même l'alcool de la Mirabelle.
Non, c'est chez nous.
Eh bien, alors, ça vient de ça.
T'as vu ce qui se passe là? Il y a deux juifs qui habitent à Jérusalem qui se disputent pour dire c'est quoi chez nous. Est-ce que c'est Strasbourg ou est-ce que c'est Metz? T'as vu un peu l'influence de la galoute? C'est incroyable.
Il y a le pruneau
d'Agen
aussi.
Il y a le pruneau d'Agen, bien sûr. On va, c'est bon, la moutarde de Dijon aussi, on y va.
Il y en a un qui va venir, qui va te dire des citrons de
où
trucs, là, de, comment ça s'appelle?
Je ne sais pas, moi.
Ouais, des Monaco.
Et les Juifs de Jérusalem. C'est-à-dire les Juifs de Jérusalem. Donc, nous dit l'Orafouk, de la même façon qu'il y a des conditions climatiques qui sont propices au développement de telles espèces, et que si jamais tu vas t'implanter dans un endroit qui n'est... Tu vas mettre une plante, comme j'ai donné l'exemple du cactus, à un endroit qui n'est pas propice pour lui, ou tu amènes un animal à un endroit qui n'est pas propice pour lui, et nafsho ou chovel. C'est-à-dire qu'il se met en danger... Pas il se met en danger, mais... il détruit, il détériore son âme. Il se détériore. C'est pas son endroit.
Il n'est pas dans son endroit.
Voilà. Dis-le à Frou. Kacha em gam achilufim aruchaniim. Ce qui est vrai au niveau climatique naturel, c'est vrai également au niveau ruchani, au niveau spirituel. Il y a des conditions climatiques spirituelles propices ou pas propices. C'est-à-dire Mitzad pnimiyut erche achayim shelahem. Donc le ruchani, il va dépendre aussi de là où tu es. C'est-à-dire que on ne comprend pas la Torah de la même façon si on est po, c'est-à-dire à l'endroit où la Torah a demandé que tu sois, ou si tu es sham. Et ce n'est pas seulement une question de capacité intellectuelle du bonhomme. Parce que pour le même mec, c'est l'environnement, mais pas seulement physique, c'est également spirituel. C'est le même homme. Ils sont en train de remplir une piscine ou quoi? Ah, c'est bon? C'est fait. Donc, Bekitsour, il ne s'agit pas seulement de la qualité intellectuelle du bonhomme. Parce que le même mec, s'il est là-bas ou ici, il ne développera pas du tout les mêmes compréhensions. On retrouve ça à Be'tshuvot Achatam Sofer. Tu vois, Tachatam Sofer, il y a un Chacham de Eretz Israël qui a envoyé une lettre au Chacham Sofer, une question de Halakha. Alors, Chacham Sofer, il habite en Europe centrale, rien à voir avec Israël. Hein?
Pose la question à ton rabbin local.
Non, alors non, parce que Chacham Sofer, il s'était imposé comme étant un taulier. Donc on lui envoie la question et il répond. Et il fait un PS, pas un parti socialiste. Un post-scriptum. Et il dit, écoute, ce que je t'ai répondu là, l'obarur likolka. C'est-à-dire, je t'ai répondu un truc, mais je suis pas serein de ma réponse. Avalani batouar, c'est comme ça qu'il écrit, je suis certain que lorsque mes mots atteindront l'air d'Eretz Israël, les choses s'éclairciront. Ah, t'es l'eau pas shoot. Hein? Et voilà, saute. Rabbi Nachman de Breslav arrive en Israël très peu de temps. Et ensuite, il revient en Ukraine. Il dira que toute la Torah qu'il a étudiée avant n'a rien à voir avec la Torah de quelques temps, quelques semaines, qu'il a réussi à intégrer en Eretz Israël. Donc, c'est pas la même chose. Et voilà, saute. Bechol sefira ruchanit. Yesh tzivyone chayim meyuchadim. Dans chaque dimension spirituelle, il y a des couleurs particulières. Kol zman she'advarim baim rak lemaga shel akarat shel akarat rak lemaga shel akarat en adavar choder kol kach ad omek ha'chayim. Lorsque tu ne fais que gratter la surface des choses, ça ne rentre pas.
Hein? Si c'est du plastique, ça passe pas.
Non, vous comprenez que tout ce qu'il dit, c'est tellement vrai dans la vie de tous les jours, mais il te dit dans la Torah, c'est comme ça que ça marche aussi. En mala azot. Donc, en adavar choder kolkach adomek achayim, omnam kevan shebaou lide argasha, kvar achayim mitrashmim bo beyoter. Il ne suffit pas seulement de gratter, mais une fois que, dès que tu es rentré dans la argasha, que tu ressens les choses, alors ça commence à s'imprimer. Lama, Bechutza la'aretz, la tefila, elle dure 4 heures, le Shabbat matin.
Parce qu'il y a dimanche pour se reposer.
Il y a dimanche pour se reposer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font les gens? C'est fantastique. Moi, j'étais Shabbat, pas ce Shabbat, Shabbat d'avant, j'étais à Paris. Et j'étais... c'était fantastique. La tefila interminable le matin. Interminable. Bon, j'étais chez les Sfaradim. Non, mais tu peux aller chez les Sfaradim ici, c'est plus long que chez les Ashkenazim.
C'est social, il y a une dimension sociale.
Alors, il y a une dimension sociale, mais attention, il y a une dimension sociale, mais je ne te parle pas seulement du kidouche et du chiour après, voilà. Et du machin. Je parle même de la tefila, où il n'y a pas de dimension sociale, parce que c'est le genre de synagogue là où j'étais, où... Alors, ça chante, mais des fois, c'est pas chouette long.
Mais ici, en Israël.
Et tu sais même pas pourquoi c'est long. C'est ça prend longtemps. Ça prend longtemps. Les mêmes Sfaradim, ils arrivent à Emouna, ils coupent de un tiers de la tefila en termes de longueur. Combien de temps ça dure ici, la tefila? 2 heures.
Non,
2 heures et demie.
3 heures.
La Amida, elle est plus longue?
Non, pas au niveau du texte.
Ici, ah, du temps? Je ne sais pas si c'est tellement la Emida, Dafka. Je fais des Zimra, et je reviens là-dessus, et je reviens sur ça. Mais si eux, eux, ils ne le sentent pas. Et rajoute à ça, après, le guidouche, le chiour du rave, le machin. Tu es parti de chez toi à 7h30, tu es rentré, il est 1h.
Mais qu'est-ce qu'on fait ici? C'est ce qu'on fait ici. On arrive ici à 8h du matin, on démarre la prière à 8h, on sort à 11h30.
On sort à 11h30.
Avec le chiour du rave, avec l'apéritif, avec un tas de trucs, on sort, il est presque...
Bah, t'as déjà enlevé presque 1h30 par rapport à là-bas. Ce que je veux dire, c'est que Shama, le Chutz Al-Aretz, la synagogue, c'est un petit peu la terre d'Israël. C'est ce qui te rattache à la vie de la Torah. Donc t'es content d'être là-bas. Et en plus, on discute aussi beaucoup, bien sûr. C'est-à-dire qu'on est content, on se retrouve à la maison. Quand tu sors de la synagogue... T'es obligé de mettre la kippa dans la poche, t'es obligé de rentrer chez toi, et tu traverses un monde qui n'est pas le tien jusqu'à ce que tu arrives à la maison, tu es sur la mezouza et tu te dis, ça y est, je suis chez moi. Eh bien, Zenachon, mais Bechutz al-Aretz, c'est comme ça. En Eretz Israël, même quand t'es dehors de la synagogue, t'es à la maison. Il y a une dimension de Argashat Achaim, de ressenti, qui n'est pas seulement dans les endroits fermés de la synagogue ou du Beit HaMidrash. Et donc, nous dit le Rav Kook ici la chose suivante. « Ukshéba ad lide emuna vedvekut az achayim mutba'im bematba'atam ameyuchada ve'im neutim leoto amiktsoa az em mitbarechim ou mitaderim. » Lorsque tu es plein de emuna, même lorsque tu vas faire des choses de la vie quotidienne, tu te remplis d'Akadosh Baruch Hu.
C'est beaucoup un état d'esprit. Ça.
Mais bien sûr, c'est un état d'esprit. C'est, je vais vous dire, je ne parle pas d'antisémitisme ou pas d'antisémitisme. Le fait que, c'est un état d'esprit, le fait que quand on sort de la synagogue ou on sort du Beit HaMidrash, fut un temps, et aujourd'hui encore, mais peut-être pour d'autres raisons, on enlève la calotte. Il y a eu une époque où on enlevait la calotte, mais pas pour des raisons d'antisémitisme. Parce qu'on sentait que le judaïsme, il était dans la synagogue. Quand on sortait de la synagogue, il fallait être un goy. Il fallait passer pour un Français ou ailleurs. Le fait que tu ne changes pas de couvre-chef en Israël quand tu rentres dans la Sina ou quand tu sors de la Sina, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas qu'une question d'antisémitisme.
Les conditions, elles sont différentes.
Ce n'est pas qu'une question d'antisémitisme. C'est une question de « je suis autant Israël dehors que dedans ». Et je tiens ici à apporter un jugement extrêmement critique. Voilà, je ne sais pas si vous allez m'entendre ou si vous n'allez pas m'entendre, je ne sais pas à quel point mes paroles vont avoir un retentissement ou pas, mais je voudrais porter un jugement extrêmement critique, et pas pour le contenu de leur travail, qui peut être très bien, mais sur une prise de position idéologique qui me dérange énormément. Il y a une chaîne d'actualité qui s'appelle I24 News.
Ils ont enlevé la kippa.
C'est obligatoire d'enlever la kippa quand tu rentres dans les studios.
Tout le monde ?
Oui, monsieur. Je connais quelqu'un de... Alors, il y a peut-être des gens qui arrivent avec leur notoriété. Je ne parle pas des invités. Hein.
Ouais,
si tu es invité, c'est machin à faire. Mais les gens qui travaillent, je connais quelqu'un de source sûre qui travaille là-bas, qui me dit qu'il est obligé d'enlever sa kippa quand il rentre dans les bureaux. Parce qu'ils veulent être une chaîne internationale, ce que tu veux, ils ne veulent pas que ce soit métouillable, que ce soit colorisé. Mais c'est une honte.
Avant, ils avaient la kippa.
Mais c'est une honte.
C'est la politique de la chaîne.
Mais c'est une, et ben je dis, c'est une honte. Je ne remets pas en cause la qualité du journalisme de la chaîne, parce que je ne la regarde pas assez. De toute façon, de ce que j'entends, c'est un bon contenu, c'est de la bonne qualité. Mais je dis, c'est une honte de demander à des juifs en Eretz Israël de devoir enlever leur kippa. C'est une honte. Un jour, on m'a téléphoné, moi perso, pas pour aller à I24, parce que quand on m'a appelé pour aller à I24, en tant qu'invité et en tant que rabbin, on m'a pas demandé d'enlever ma kippa. Mais un jour, on m'a appelé en tant que guide, pas I24, hein, une autre société israélienne qui m'a appelé. Il dit voilà, on a eu un désistement, on a besoin d'un guide pour 2 jours pour accompagner une grande célébrité française. Je dis, ah bon, c'est qui? Il dit, faudrait que vous guidiez Michel Fugain.
Il connaît bien Israël.
Un moule, écoute-moi bien. Je lui dis, ah bon, ok, c'est quand, quelle date, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il dit, voilà, c'est telle date, faudra être une demi-journée comme ça dans la vieille ville, mais il n'y aura pas beaucoup de guidage parce qu'il y a plein de choses qu'il doit faire. C'est une émission qui sera retransmise sur France 2, machin, et puis il y aura un moment à Masada aussi. Je dis bon, pourquoi pas, faut voir. Bon, avant même que je pose la question de combien c'est rémunéré et qu'ils me disent que c'est pas rémunéré, non, tu comprends, tu vas avoir de la pub sur France 2, Michel Fugain. Mais c'est pas arrivé jusque-là. Parce qu'ils m'ont dit, on a fait un petit peu notre enquête, on a vu des vidéos de vous, machin. Vous avez la kippa, est-ce que ça vous dérangerait de l'enlever? Oui. J'ai dit, mais pourquoi? Je lui dis, mais pourquoi? Il dit, parce que vous comprenez, Michel Fugain, il n'a pas envie, parce que ça va être vu par des millions de gens et tout ça, il n'a pas envie que ce soit connotation politique, religieuse, machin. J'ai dit, vous savez, j'ai aussi des fils qui se baladent le long du pantalon. Titite. Alors peut-être vaudrait mieux que je les rentre. Alors il me dit, oui, effectivement, ce serait une bonne idée. J'ai dit, et vous savez, j'ai aussi des péotes. Sur les côtés des oreilles, donc peut-être il faudrait que j'aille chez le coiffeur avant. Et là, il ne répond plus. Et il dit, et vous savez, j'ai une barbe aussi, il faut que je me rase avant de venir. Et là, ils me disent, vous plaisantez? Je lui dis, non.
C'est vous qui
vous plaisantez? C'est honteux ce que vous me demandez. Vous me demandez de me cacher, de cacher mon judaïsme. Mais allez vous faire voir. Mais hors de question que j'aille faire ça. Je ne vais pas me vendre mon identité.
Pour
Michel Fugain, une colocavode.
En plus, il ne s'est pas payé.
En plus, ça, je ne le savais pas. Ça, c'est après, parce que le mec qui l'a fait, je le connais, c'est un copain à moi, il m'a dit que finalement, il n'était pas payé. Mais lui, il n'a pas été embêté parce que tout son guidage, il le fait avec une casquette. C'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il vente, machin, il a sa casquette, I love Jérusalem. Donc, comme ça, c'est sa marque de fabrique. Donc, comme ça, lui, ça ne lui a pas posé de problème, tout va bien. Mais je lui dis, mais c'est une honte. Vous êtes des Israéliens, des Juifs, et vous me demandez, ça ne va pas ou quoi? Donc, il nous dit le Rav Kook, quand tu peux t'exprimer, tu dévoiles des choses beaucoup plus profondes. C'est une réalité. Ok ? Ve'im einam ne'udim lo, az kefi midat rechukam ve'nigudam, ou lefi midat shikuam betocho ve'ashrashatam, kacha tiye midat churbanam ve'avudam. C'est-à-dire, plus tu t'éloignes de ton identité, plus tu détruis ton identité. Voilà. Plus tu t'éloignes de qui tu es, plus en fait tu es en train de détruire qui tu es. C'est tellement vrai. On ressent les choses. C'est tellement ça, quoi.
Moi, j'ai constaté que dans notre génération, on a eu ceux qui ont fait le pas, qui sont venus. C'est un conflit interne. Pourquoi? Parce qu'on a vécu, moi je prends mon exemple, j'ai vécu 45 ans en France, avec une mentalité, avec tout ce qu'il y a de... Et puis d'un coup, il faut tout changer, venir dans un truc, dans un endroit, c'est Israël, c'est idéal, c'est tout, mais c'est un endroit que je ne connais pas, c'est une mentalité que je ne connais pas, c'est une façon de vivre que je ne connais pas, etc., etc. Donc ça a été un conflit pendant des années. Il a fallu m'adapter à ça.
J'entends bien.
Pas moi, tous ceux qui ont fait la guerre.
Tu as tout à fait raison. Mais la question, elle n'est pas là. La question n'est pas de savoir est-ce que ça va être dur de s'adapter ou pas. Parce que oui, ça va être dur. Et plus tu as passé du temps.
Seulement, ce qui m'a tenu, c'est que j'ai dit, moi, j'ai fait ça pour moi. Je fais ça pour la suite.
Oh.
Pour mes enfants, mes petits-enfants.
Et c'est la question que je te pose. Parce que, effectivement, c'est dur. Et plus tu as passé du temps en route Slares, plus c'est dur de venir. Mais, de tous tes amis qui sont restés là-bas, combien sont restés fidèles à leur identité? Et de ceux qui sont venus ici, t'as des petits-enfants qui étudient la Torah et qui sont des tzadikim et tout ça.
Ouais, c'est... on pense à la suite.
Et bien sûr, bien sûr. Mais ça y est, Baruch. Zoti atechuna ha'amuka shela ishtammerut mi'isha zara b'muvan aruchani. Asher darche she'ol beita v'ragleha yordot mavet. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le danger du juif en route Slaharetz?
L'assimilation.
C'est-à-dire la goya.
L'assimilation.
La goya. La goya, c'est pas chaud. La goya.
L'école primaire, tout ça.
La goya, il te dit.
La goya, c'est un col.
Sur Ivenska, justement, il y a un invité comme ça, qui a essayé d'expliquer que l'assimilation, c'était pire que la Shoah. Mais on l'a mangé, le type,
sur le... Mais ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ne savent pas s'exprimer. Mais ce n'est pas une question de pire que la Shoah ou pas pire que la Shoah. La question, elle est que le danger... Évidemment qu'il y a la persécution des Juifs et l'extermination des Juifs, c'est un danger évident. Mais c'est un danger qui, heureusement, n'est pas du domaine du quotidien. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, Baruch HaShem, il n'y a pas les goyim qui viennent et que dès qu'ils voient un Juif, ils le tuent dans la rue. Ce n'est pas ce qui se passe. Il y a eu des moments où il y a eu des conflits où on nous a massacrés. C'est malheureux et c'est terrible. Mais c'est Baruch HaShem, pas la situation de chaque juif tous les jours en roule. Par contre, la situation de chaque juif tous les jours en roule, c'est de pouvoir rencontrer une goya. Mais j'étais à Paris il y a 2 semaines, j'ai déjeuné avec mes très très bons amis d'enfance. Ok, mais maman, c'est pour te dire, ça fait 18 ans que je suis parti, à chaque fois que je vais à Paris, on essaye de se voir, de se faire un petit resto. Bon, évidemment, ça les dérange parce qu'il faut que ce soit un resto cachère à ce moment-là. Mais ça veut dire, maintenant, de ces amis, il y en a un, Baruch HaShem, qui est relié à son identité, qui est marié avec une juive, qui a des enfants juifs, pas religieux, mais très imprégné d'identité, qui est d'ailleurs un de mes followers sur mes cours et tout ça, machin. Il y en a un autre qui est marié avec une non-juive, avec des enfants, avec des non-juifs. Il y en a un autre qui me dit, je sors avec une fille, elle s'appelle Sarah, mais elle n'est pas juive, mais elle étudie Manitou et André Nair. Oh, ouais. Je dis, c'est peut-être elle qui va te faire tchouva alors. On ne sait pas. C'est-à-dire, vous comprenez de quoi on parle? Nous dit ici le Rav Kook, Zoti atruna a amuka shel ha'ishtamrut me'aisha azara. כן? במובן הרוחני. אשר דרכי שאול ביתה, ורגליה יורדות מוות. וכמה גדולה היא מידת... Non, c'est... Vous comprenez que c'est pas... Le Rav Kook te dit, c'est pas seulement le fait de se marier avec une goya. C'est aussi au niveau rouhani. D'être influencé par la goya rouhanite. C'est-à-dire, c'est qui le premier qui a eu ce conflit de la goya? Hein? Non, parce que Hagar, c'était pas sa femme, c'était sa concubine pour avoir des bébés. Il était marié avec Sarah. Et Sav? Il a pris des Nashim Nochriot. Zenachon. Zenachon, tu as raison. Mais, c'est quand même lui qui donne le ton. Et puis Sav, il est déjà un petit peu. Mechout Katmouna, il est plus vraiment de chez nous. Yosef? Non, mais ça, ce jour-là, c'est beaucoup plus tard. Moi, je te dis avant, Yosef. Yosef, il y a la Goya qui essaye, tant bien que mal, d'être avec lui. Échette Potiphar. Et elle essaye, et tous les jours, elle le chauffe à l'université, et à l'école, et elle le kiffe. Et franchement, Et il la trouve géniale. Elle est de bonne famille, elle est gentille, elle est sympa, elle s'intéresse. Et même pour moi, elle a acheté des bougeoirs pour allumer les bougies le vendredi soir. C'est fantastique.
Elle a les yeux bleus.
Elle a les yeux bleus, elle est blonde, elle est gentille. Et puis elle a beaucoup d'ira de chamaï.
Et peut-être elle a un peu de... un peu de répondant.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Et bien à un moment donné, Yosef au début dit non, ça se fait pas, mes parents ils ont passé la Shoah et tout, ils m'ont dit tu fais ce que tu veux, tu manges du cochon mais tu ramènes pas une Goya à la maison, qu'est-ce que je vais faire? Et puis elle le chauffe, elle le chauffe, elle le chauffe. Et un jour, va y avoir Baïta la Asot Melarto. Et il y a une marloquette Rav ou Shmuel. Rav il te dit qu'est-ce que ça veut dire va y avoir Baïta la Asot Melarto? Et il est venu faire son travail comme il faisait tous les jours en tant que grand intendant de la maison. Shmuel Omer, la Asot Melarto Ima. Là, Yosef, il a dit, si elle vient me voir aujourd'hui, je dis oui. Et donc, elle est venue. Et alors, il a dit oui.
Le volcan, il a explosé.
Ah, il a explosé. Et à ce moment-là, nous dit le Midrash, qu'au moment où ils ont fait plein de préliminaires et de ce que tu veux, juste avant de passer à l'acte, il a vu l'image de son père. Bon, ça, ça calme déjà, forcément, quand tu es avec une jeune fille et que tu vois l'image de ton père avec la moustache. Que j'imagine que Yitzhak avait une moustache.
Surtout si elle est bien taillée.
Ah, t'as vu?
Il avait qui paye la payotte.
Quoi? Yaakov. Autant pour moi. J'imagine que Yaakov aussi avait une moustache. Alors il se dit, il a vu Dmout Nyokdosh à la ville, et c'est quoi la suite? Et il a vu que s'il allait avec elle, ses enfants ne ressembleraient pas à son père. En d'autres termes, ils seront goyim. C'est-à-dire, donc ça, c'est une réalité tant au niveau concret physique, mais également au niveau spirituel. L'influence spirituelle goy, eh ben, elle peut te, complètement te détruire ton identité juive.
Il y a une autre influence. C'est que dans les universités, les femmes, elles repèrent les jeunes juifs qui ont un avenir, et elles se collent.
Bien sûr, mais c'est évident. Tu as raison. וכמה גדולה היא מידת המשכה לרחי לב וקטני דעת הולך אחריה פתאום כשור אל טבח יבוא וכאחס אל מוסר אביל בית ישראל יודע בחוש קודש העמוק שלו איך להישמר מפח יוקשים אבל לא הפוך תודי תקט פה דמניר שנראה לפפל ג'ויף. Il a un chouch. Il a un truc qui sait le garder de ses embuscades. Il nous dit effectivement le roi Chaim HaKadosh. Ken? Roi Chaim HaKadosh, Rabbi. Rabbi, Chaim, Benatar. Roi Chaim HaKadosh. Qui est enterré?
Non, j'ai dit qu'il vient de Salé, Maroc.
Oui, et qui est enterré?
En Maroc, non?
Non.
En Israël.
En Israël.
En Israël.
À Jérusalem. Roi Hazetim. Roi Chaim HaKadosh. Donc le Roi Chaim HaKadosh, il dit, c'est quoi le mérite du peuple juif pour avoir la Géoula? Ah, et on a abandonné la Torah. C'est quoi le mérite du peuple juif? Ah, ça, c'est pas le mérite. Ça, c'est de son point de vue à lui. C'est quoi notre mérite à nous? Il dit, c'est pas chouette. Notre mérite à nous, c'est qu'après 1500 ans d'exil, bon, c'est l'époque du Roi Chaim, donc après 1500 ans d'exil, il y a encore des juifs. Ça aurait été le plus simple du monde et le plus normal du monde de s'assimiler. T'en as marre de la persécution, t'en as marre de l'antisémitisme, assimile-toi. Marie-toi avec une Goya, tes enfants ils seront plus juifs et c'est terminé. Il n'y aura plus d'assimilation, enfin, il n'y aura plus de persécution, d'antisémitisme, on est très bien. Il dit le fait que pendant 1500 ans on a été persécutés en tant que juifs et on est toujours juifs, pratiquant ou pas, c'est pas le débat. C'est un mérite énorme.
Il n'y a aucune génération.
Slicha, deux secondes. D'abord, le Roi Chaim HaKadosh, c'est avant l'émancipation en Allemagne. Il te dit la chose suivante. Ce n'est pas une question de blonde ou pas de blonde. Il te dit, le plus simple du monde, même pour un juif qui habite au Maroc depuis 1000 ans.
Ouais.
D'abord, il n'était pas au Maroc depuis 1000 ans, mais disons, l'homme chané. Le plus simple du monde, c'était de se convertir à l'islam.
Ah,
et de pouvoir se marier avec une goya.
Alors là, l'arabe pour nous, c'est
très bien. Mais tu comprends ce que je suis en train de te dire? Il y a eu de la persécution partout.
Ils ont obligé des juifs à se
marier.
Je suis d'accord.
Je suis d'accord, mais c'est ce que je te dis. Ça aurait été facile. Ça aurait été facile pour les juifs, qu'ils soient en terre musulmane ou en terre chrétienne, ça aurait été facile de se convertir. Non?
Oh oui.
Bon, donc ça, si tu te convertis, il n'y a plus de problème. Tu peux te marier avec une bonne femme, très gentille, et il n'y aura plus de persécution, et il n'y aura plus d'antisémitisme, et tu seras bien.
Sauf qu'un juif, il ne peut pas se convertir.
Tu parles à l'Alakha, toi. Tu parles à l'Alakha. Moi, je ne te parle pas à l'Alakha. Je te parle réalité du terrain.
C'est la Torah qui nous a gardé.
Dans tous les endroits où on était, que ce soit en Pologne, en Ukraine, ou en Afrique du Nord, ou ailleurs, ou au Yémen, comme jamais, on a été persécutés dans l'histoire, non?
Bien sûr.
Il y a eu d'antisémitisme tout le temps. Mais ça, c'est un autre problème. Mais le peuple juif, il a survécu pendant l'exil. Et le Rachaïm HaKadosh te dit, c'est ça la grande folie. C'est qu'on a survécu pendant l'exil, alors le plus simple aurait été pour nous de disparaître, mais pas parce qu'on nous persécute, de dire on en a marre. Tu connais plus de druides gaulois.
Ouais, mais le Shabbat, il a un goût particulier.
Ndaya ! Je dis simplement que le Rav Kook t'enseigne. Je te dis, il y a un truc au sein du peuple juif qui fait qu'on sait se garder. Il y en a qui partent, mais de manière générale, à Israël, il est resté. Et c'est pas normal.
Le monde entier reconnaît que c'est un miracle.
Actuellement, en Amérique, il y a un pourcentage.
Ben, je suis d'accord, c'est pas bien. Mais au final, à Israël, il a survécu à l'exil. Alors que dans tous les autres peuples qui sont partis en exil, ils se sont assimilés. Je dis simplement que, nous dit le Rav Kook, le peuple juif, il a un truc. Il a un truc qui sait le garder. Intérieur. D'accord ?
C'est le conflit qui existait entre le Rav Kook et le Rav Raphaël Hitch.
Non, pas du tout.
Qui disait finalement, la terre n'est pas absolument...
Mais ça n'a rien à voir. C'est pas de ça qu'il parle. Là, le Rav Kook, il te dit, Am Israël, il sait ne pas s'assimiler. Mais alors, ça ne suffit pas de ne pas s'assimiler. Il nous a dit qu'il faut retrouver notre identité, machin. Mais pas Galout. Quand on ne pouvait pas encore être en Israël, il y a un truc qui fait que bah, on est resté juif.
C'est ça.
Et c'est pas. Mais c'est pas, c'est pas une marloquette entre le Rav Kook et le Rav Hirsch. Quand t'es bagalout, t'es bagalout, t'es de mal à la sorte. Il dit, mais on a quand même su rester nous-mêmes. Et là, il te dit, Bet Israël, yada bechush kodesh amok shelo, ech le ishamer mi par yokshim, ve yodea ou be beirut lagen alemdat ki yumo aruchani haitan, gam neged oto koach hamosher shel azarut. אשר נגוזה מבטן אמו אחרי שנתנקרה וקנתה לה תכונת זרה. C'est-à-dire que c'est quoi la zarout? Ça vient de Esav. Au départ, on était ensemble, mais ils ont réussi à sortir. Et ils essayent de nous prendre avec eux. Eh bien, on dit non. Ve'et pirte azariyut, ichut ha'ishtamerut, ועומקי האבדון שבהם, וכל הליכות היחס עמהם, הוא סוקר. On essaie, on fait toujours, on met en place des barrières, des barrières de la cacheroute, des barrières pour nous séparer des goyim. והם בספרותו, בדיני תורה, והכרות, אמונה בדעת מבוססת ורוח אמית, כראוי לעם עוז, לעם עז, סליחה, אשר עוז לו באלוהים סלע. Nous avons réussi pendant toute la période de l'exil, à garder Erchéou notre identité, ce qui permet aujourd'hui à la résurrection nationale de se mettre en place. Chazak ou Baruch.